France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics.
Le voyage de Manuel Rosenthal à La Havane. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans le Carrefour des Amériques. Et nous avons aujourd'hui un merveilleux compagnon de voyage. Il s'agit du compositeur et chef d'orchestre français Manuel Rosenthal. Après avoir dirigé l'orchestre de Seattle aux États-Unis de 1948 à 1951, il retourne en Amérique en 1954. Il vient de se remarier et ce nouveau voyage américain a un peu des allures de lune de miel. À son arrivée à New York, la ville danse plus que jamais le mambo et le cha-cha-cha. Cette année-là, le cabaret très célèbre du Château Madrid, dans la 48e rue au coin de Lexington Avenue, accueille toujours beaucoup de musiciens cubains, et notamment Facundo Rivero, dont le nouveau cha-cha-cha fait fureur à New York. Nina, Nina, rien de rien, en quelque sorte. C'est à la fin du mois de février 1954 que Manuel Rosenthal et sa nouvelle épouse quittent New York pour La Havane. Manuel Rosenthal n'a jamais oublié leur arrivée à l'aéroport de Rancho Bolleros.
Nous avons encore presque dans les narines l'odeur, en arrivant même à l'aéroport, les odeurs épicées de Cuba, qu'on n'a jamais retrouvées nulle part. J'ai dirigé l'orchestre pendant 3 mois. Alors, on nous a dit, nous n'allons pas passer tout ce temps-là à l'hôtel, et on nous a loué un petit appartement, pas loin du théâtre, on pouvait y aller à pied. Et alors, c'est ce qui était hallucinant, c'était quand on se promenait dans les rues, ce qui nous est arrivé, parce que nous avons fait aussi de très longues promenades, et où on était perdu, on ne savait pas comment revenir à La Havane. Alors, je me souviens, à un moment, un endroit où on nous dit, comment va-t-on revenir au centre de La Havane? Nous avons demandé notre chemin, enfin, comment revenir en ville, à une cafetière, je me souviens, enfin, à des gens dans la rue, tous nous parlaient de la guagua. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas compris, jusqu'à un moment où un autobus s'est arrêté devant nous, ils ont dit, la guagua, C'est comme ça qu'ils désignent l'autobus. Et puis alors, une chose qui nous obsédait, c'est que quand on baladait dans les rues de la... Alors, il y a eu très peu de grands immeubles à ce moment-là. C'était surtout des villas. Alors, il y avait des porches sur lesquels, à la fin de la journée, naturellement, les gens venaient prendre le frais, tous sur des rocking chairs. Alors, ça devenait hallucinant. On passait, n'est-ce pas, le long d'une avenue, et on passait devant une cinquantaine de femmes qui se balançaient sur leur rocking chair.
La pianiste cubaine Juana Sayas interprétait une guajira de Gisela Hernández. Et nous continuons à flâner dans la Havane avec Manuel Rosenthal juste après son arrivée fin février 1954. Il vient de s'installer dans un immeuble du quartier du Vedado dont il aime beaucoup les petites villas très élégantes.
Les villas de type naturellement sud-américain. Le petit immeuble où nous avions un appartement, c'était plein de ces villas. Très, très chic, c'était un quartier très bien habité. Et puis alors, dans les quartiers populaires, alors c'était la même chose, mais en plus modeste, naturellement. Mais on est allé assez loin, même à pied. On s'est baladé dans la banlieue quoi, de la Havane, tout ce qu'on pouvait faire à pied. Et puis, on a pénétré alors dans la ville, dans le quartier qu'affectionnait Hemingway. Nous sommes allés d'ailleurs rendre des verres dans le bar où Hemingway allait toujours là après...
La Bodeguita.
Voilà, après la pêche au gros poisson, à l'Espadon. Enfin, ça a été un moment pittoresque, évidemment, très très loin, et de l'Amérique du Nord, et encore plus de l'Europe.
Thank you.
Leo Brauer dirigeait ici l'Orchestre National de Cuba. Manuel Rosenthal va donner 7 concerts à La Havane et d'autres en tournée, notamment à Camagüey. Quand il commence à répéter avec l'orchestre, il sait qu'il succède au pupitre à ce géant de la musique qu'était Erich Kleiber. Le retour de Kleiber à Cuba en 1954 avait été particulièrement émouvant pour le chef autrichien après tant de mois loin de sa chère ville de La Havane. Il avait dirigé la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et la pathétique de Tchaïkovski. Erich Kleiber était ensuite resté un moment à Cuba. Emmanuel Rosenthal a pu ainsi le rencontrer. Manuel Rosenthal qui a aussi lié amitié avec le compositeur cubain Harold Gramaches, dont il a dirigé la sérénade pour cordes. Il nous parle d'abord d'Erich Kleiber.
Je l'ai vu à Cuba, à La Havane, et très gentiment, il est venu, il est pas venu pour moi, naturellement, mais enfin, il est revenu sur le théâtre de ses activités de guerre, et tout de suite, bon, il savait que j'étais là, alors il m'a contacté, nous sommes venus, nous avons déjeuné ensemble, etc. L'un des musiciens que j'admirais le plus de parmi les chefs d'orchestre allemands, c'était le plus complet. Et puis un homme d'un très grand caractère. L'orchestre était bon, naturellement formé de toutes sortes d'émigrés. Il y a des Allemands, des Russes, des Polonais, enfin bon, et très peu de Cubains. Par contre, il y avait un adjoint, un assistant, qui était cubain, lui. Et puis alors, j'ai beaucoup rencontré les compositeurs cubains, dont Gramaches et d'autres. Et nous avons beaucoup vu les Gramaches, parce qu'ils étaient d'abord très agréables, tous les deux très distingués. Une femme ravissante et extrêmement charmante, lui était très cultivé. Et nous sommes revenus à Paris parce qu'il a été le premier ambassadeur de Castro ici.
La Camerata Romeo interprétait la sérénade pour cordes d'Harold Gramaches que Manuel Rosenthal avait inclus dans les concerts qu'il avait dirigés les 18 et 21 mars 1954 avec des œuvres de Brahms et de Roussel. Manuel Rosenthal.
Je suis allé diriger à Camagüey et puis il y a eu un moment où nous avons bénéficié de 2-3 jours de congé, enfin pas de répétition. Et on nous a offert ce qu'on voulait comme voyage à l'intérieur. Alors nous avons pris un car, je me souviens épatant, un chauffeur admirable, qui a traversé toute l'île pour nous mener jusqu'à Trinidad. Ça, nous avons touché là le Cuba qui datait de Christophe Colomb. Évidemment, on répétait à La Havane même, chaque programme était répété. Aussi, on m'a invité à faire des concerts de musique de chambre d'un très haut niveau. Il y avait à ce moment-là un violoncelliste qui a ensuite, je crois, émigré à Porto Rico. Il s'appelait Adolfo Odnoposov. Il était professeur là-bas, il jouait admirablement du violoncelle, c'est un grand violoncelliste. Sa femme, qui était une très bonne pianiste, l'accompagnait et il donnait beaucoup de concerts de musique de chambre, mais d'un très haut niveau. Je me souviens d'un programme Hindemith, par exemple. On faisait beaucoup de musique à la fois.
Mais quel genre de public venait, par exemple? Vous vous souvenez un peu de ça, non?
Bon, c'était plein. C'est pourquoi on était obligé de répéter, parce que la salle n'était pas assez grande. Pour épuiser le nombreux public, on devait répéter les concerts. C'était très chaleureux, d'abord comme accueil, il y avait toujours beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi une troupe de danseurs, oui, dont la...
Alicia Alonso.
Elle était célèbre. Alors, il y avait beaucoup de spectacles de danse là-bas, mais de spectacles modernes. C'est-à-dire, ils dansaient sur les musiques de Stravinsky, de Bartok. Enfin, il y avait un grand mouvement culturel à La Havane.
Thank you.
J'avais aussi une connaissance avec un homme dont le frère, qui est mort maintenant, a été célèbre, c'était les Bollet. Alors, il y a un grand pianiste, et son frère était chef d'orchestre. Il avait une femme qui était un architecte de très grand talent, et qui avait fait leur maison, qui était, je dois dire, l'une des découvertes que nous avons faites, ma femme et moi, de l'architecture moderne. C'était ravissant, et en même temps tout à fait fonctionnel, enfin, tout était arrangé de façon à bien vivre, elle avait un très grand talent. Alors, très gentiment, il me suivait tout le temps, il venait aux répétitions, et après les concerts, alors, nous nous rencontrions à un grand café qui s'appelait El Carmelo, en face du théâtre. On a goûté la cuisine, qui est très bonne, la rose à la cubana. Ma femme en rêve, elle en a fait de temps à autre, et ça nous rappelle notre séjour à Cuba. Enfin, nous allons garder un souvenir très précis et au fond très marqué. On regrette que ce soit devenu impossible à cause de la situation politique, et puis on plaint ces pauvres gens qui étaient très sympathiques, aussi bien les gens du peuple, parce que je me souviens, les Gramaches nous ont amenés dans les marchés, où on buffait sur les éventaires, on faisait cuire des saucisses, etc. On bouffait là, et on se baladait, et c'était très, très sympathique, toujours très gay d'ailleurs. Très gay, tout le monde pamphlantait. Et alors, très croyant, dans les autobus, au-dessus du siège du conducteur, il y avait toujours l'image de la Sainte Vierge.
Deuxième mouvement de la sérénade pour cordes d'Harold Gramaches, c'était Roberto Sanchez Ferrer à la tête de l'Orchestre Symphonique National de Cuba.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le violoncelliste Adolfo Otnopozov était d'origine argentine. Il résidait à l'époque à Cuba. Il avait été le premier violoncelle du Philharmonique de la Havane avant de mener une brillante carrière de soliste. Manuel Rosenthal l'avait invité à jouer les 4 et 7 mars le Chelomo de Max Bruch pour violoncelle et orchestre. Cette même année, 1954, Adolfo Otnopozov crée à la Havane, avec son épouse la pianiste Berta Huberman, une œuvre que lui avait dédiée un jeune compositeur cubain de 29 ans, Aurelio de la Vega. Il s'agissait de la légende d'un Ariel créole. Ariel, c'est bien sûr l'esprit des airs, qui emplit de ses chants, de sa magie, la tempête de Shakespeare. Mais c'est aussi le personnage d'une œuvre emblématique de la littérature latino-américaine, écrite en 1900 par l'Uruguayen José Enrique Rodó. Ariel y devient le chantre de la culture latino-américaine capable de rivaliser avec les cultures d'Europe et d'Amérique du Nord. Et à La Havane, il y a sur une petite place une statue qui lui rend hommage sous les traits d'un paysan cubain habillé à la mode créole. C'est un jour en se promenant qu'Aurelio de la Vega a remarqué cette statue qui lui a inspiré cette légende d'un Ariel créole, une de ses œuvres les plus jouées encore aujourd'hui. Thank you. Françoise Régnat au piano, Rowena Hamill au violoncelle dans cette légende de l'Ariel créole de Aurelio de la Vega. Manuel Rosenthal.
La situation de Cuba était étrange à l'époque parce que ça vivait encore sur un statut, c'était très riche, et la monnaie était extrêmement forte. Le peso cubain valait au moins autant que le dollar américain. Mais par contre, alors l'atmosphère morale était déjà tendue. Les gens de la bonne société qu'on rencontrait, je veux dire, les professeurs d'université, médecins, etc., avaient tous des élèves en prison, qui avaient des ennuis. On sentait que la révolution couvait. Par exemple, à Camagüey, c'est dans le sud, là. Et là, déjà, on parlait presque ouvertement, dans les cafés, par exemple, de quelque chose qui se préparait contre Batista. Mais apparemment, il n'y avait rien. La situation était florissante.
À Cuba, la situation est effectivement florissante. La population reste optimiste. D'autant plus que le mouvement des travailleurs et le mouvement de défense des prisonniers politiques a forcé Batista à accorder une amnistie générale. Cuba et La Havane vivent toujours dans la même effervescence. Les 18 et 21 mars, Manuel Rosenthal dirige la symphonie écossaise de Mendelssohn, le concerto en ut mineur de Mozart avec en soliste une pianiste cubaine, Josefina Megret, puis le Don Juan de Richard Strauss, et enfin la création de la concertante pour harpe et orchestre de Edgardo Martín, avec la plus grande harpiste cubaine connue dans tout le pays, Margarita Montero. L'enregistrement sur le vif au Théâtre Auditorium nous est parvenu en 1994 grâce à Harold Gramaches, responsable de la musique ces années-là. L'enregistrement n'est pas techniquement parfait, mais quelle belle archive!
Thank you.
Manuel Rosenthal à la tête de l'Orchestre Philharmonique de La Havane en 1954. Margarita Montero jouait de la harpe dans ce concerto de Edgardo Martín. Manuel Rosenthal et son épouse ont quitté La Havane au printemps, avec tant de beaux souvenirs en mémoire. Après Erich Kleiber, en janvier, l'Autriche est à nouveau à l'honneur à La Havane. L'année 1954 s'achève par deux sublimes récitals d'Elisabeth Schwarzkopf, les 2 et 3 décembre au Théâtre Auditorium, un programme sans concession qui a attiré un large public, c'est-à-dire pratiquement 5000 personnes. En effet, la deuxième partie était consacrée uniquement à Hugo Wolf. Comme on le lit dans la presse, le public, un instant déconcerté, a été entièrement conquis par la musique de Wolf et, après un silence impressionnant, a ovationné Schwarzkopf. Elle avait fait de Wolf son cheval de bataille. Au festival de Salzbourg, une année auparavant, en 1953, elle avait donné un récital entier consacré à ce compositeur, récital conçu avec le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, qui l'accompagnait au piano. Il s'interprète ici deux leaders extraits des chants italiens,
Mein liebster hat zu Tisch et le sublime Vasol der Zorn.
Quel est donc mon amour, cette rage qui vous consume? Suivi d'un lied des chants espagnols, Mon ami, que porte en elle cette terre qui vous fait pleurer si amèrement? Oh, mon amour, c'est une grande douleur, mais pour vous, elle porte ces fleurs que je vous offre.
Yes. zu Tische mich geladen und hatte doch kein Haus, mich zu empfangen. Nicht Holz noch hier zum Kochen und zum Braten. Der Hafen auch war längst in zwei gegangen. An einem Fässchen Wein gebrach es auch und Gläser hat er gar nicht im Gebrauch. Der Tisch war schmal, das Tafeltuch nicht besser, das Brot steinhart.
En quittant ce récital sublime d'Elisabeth Schwarzkopf, accompagnée ici par Wilhelm Furtwängler à Salzbourg, on va profiter de la douceur de l'hiver havanais et se promener dans la nuit claire sur le front de mer tout proche, avec la musique du pianiste cubain René Touzet. Il joue toujours avec son orchestre en Californie et sur la côte est des États-Unis, et dans l'intimité, il continue à composer une série de danses cubaines pour le piano, en rêvant à son pays qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Et on va se quitter avec celui que les Cubains appellent le barbare du rythme, el bárbaro del ritmo, le fameux Benny Moré. Il est rentré du Mexique en 1952. Il est devenu si populaire que quand il a chanté au centre galicien dans la vieille Havane, les gens se sont massés près du Capitole et sur tous les trottoirs pour l'écouter. Et il n'avait jamais oublié les jeunes mexicaines. Il disait qu'elles dansaient le mambo aussi bien que les cubaines, c'est-à-dire bonito et sabroso. De belles manières et avec beaucoup de sensualité.
Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las Muchacho, mira cómo.
C'est avec ce mambo chanté par Benny Moré qu'on se quitte aujourd'hui. On va se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, bien sûr. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Cédric Chatelus. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.